Vous écoutez un podcast RTL Originals.
Ils sont avocats, enquêteurs, proches de victimes des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Nous sommes Nathalie Renoux, Amandine Bégaud, Jacques Pradel et Jean-Alphonse Richard. Et dans chaque épisode, nous recueillerons la parole d'un témoin clé qui racontera une affaire de son point de vue. Bonjour et bienvenue dans Les Voies du Crime. Je suis Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL. Voici donc aujourd'hui l'histoire d'Omar Radad, accusé du meurtre de sa patronne Ghislaine Marchal, une riche héritière de Mougins, sur la Côte d'Azur. 24 juin 1994, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la chaufferie de sa villa, la Chamade. La scène de crime est effroyable. La retraitée gît éventrée. Elle a reçu des coups de chevron sur la tête et des coups de couteau sur tout le corps. Qui pouvait lui en vouloir au point de la massacrer? Avant de mourir, la victime semble avoir eu le temps de désigner le coupable. Sur l'un des murs, une inscription en lettres de sang « Omar m'a tué ». Pour les enquêteurs, il ne peut s'agir que de son jardinier, Omar Radad. Après 20 mois d'instruction, la cour d'assises de Nice le condamne à 18 ans de réclusion criminelle. Mais son avocat, Jacques Vergès, s'insurge. Pour lui, Omar Radad est un bouc émissaire. Les vrais coupables courent toujours. Mais comment le prouver ? Dans cet épisode, la voix du crime est celle du criminaliste Roger Marc Moreau. C'est à lui que Jacques Vergès s'adresse pour l'aider à trouver des preuves de l'innocence de son client. Et ce qu'il découvre alors va tout remettre en question. Voici donc l'histoire secrète de Omar Radad.
Je ne peux pas ne pas être indigné quand je vois au terme de 8 jours de débat l'innocence d'un accusé prouvé et voir cet accusé condamné à une peine de 18 années. Je ne peux pas ne pas être indigné. Mais je pense en même temps que l'affaire est tellement grave que l'affaire ne peut pas s'arrêter là. Sur le plan de la procédure, nous ferons un pourvoi en cassation demain. Mais la procédure de cassation est une procédure secrète. Cette affaire n'intéresse pas seulement les juristes, elle intéresse tout le peuple de France. Voilà. C'est l'honneur des Français, de toute la France, qui est en cause. Et nous nous adressons à toute la France pour mener ce combat, comme d'autres en leur temps ont mené le combat pour l'officier juif qui s'appelait Dreyfus.
Donc, à l'automne de l'année 1994, j'ai reçu un courrier de l'avocat Jacques Vergès, me demandant de prendre contact avec son secrétariat pour un rendez-vous. Je ne savais pas de quoi il s'agissait à l'origine.
Vous connaissez Jacques Vergès à l'époque ?
Je le connaissais bien évidemment, comme tout le monde, de réputation. Mais je n'avais pas encore eu à travailler avec lui. Je me rends à Paris à son cabinet, et son cabinet est très impressionnant, et il va me recevoir, et il va m'indiquer d'emblée, je vous ai fait venir pour vous parler de l'affaire de M. Omar Radad.
Vous connaissez l'affaire à l'époque ?
Forcément, j'avais entendu parler de cette affaire, parce qu'elle était très médiatisée, mais je ne connaissais pas les détails. Et j'en entendais parler autour de moi, et comme j'étais spécialisé dans les contre-enquêtes judiciaires, de temps en temps on me disait « Mais qu'est-ce que tu en penses de cette affaire ? C'est manifestement une erreur judiciaire. » Et moi, je n'étais pas forcément de cet avis, car je pensais que sur une telle scène de crime, on devait avoir découvert des éléments qui venaient accréditer en quelque sorte l'accusation. La preuve, que, par exemple, que la victime avait utilisé ses doigts pour écrire, peut-être de preuves attestant de la présence du jardinier Omar Radad sur place. Je pensais que c'était un petit peu étayé, qu'on n'avait pas été condamné à cet homme sans le moindre élément.
Que fait Vergès à ce moment-là ? Il vous présente un dossier ?
Il me dit, moi j'ai cette affaire, je suis persuadé, certain de l'innocence de mon client.
Vergès vous dit ça ?
C'est ce qu'il me dit. Et il me dit, bien évidemment, j'ai un souci, c'est que Omar Radad est en détention, son épouse ne travaille pas, ils ont 2 enfants à charge, je n'ai aucun budget. Donc si vous l'acceptez, vous n'en aurez aucun budget. Est-ce que vous l'acceptez tout de même ? Donc je vais dire, oui, je vais d'abord quand même étudier le dossier. Il m'a dit, ce n'est pas grave, prenez votre temps, car j'ai déposé un pourvoi en cassation. Bien évidemment, rarement les pourvois en cassation aboutissent. Par conséquent, je prévois déjà, en cas de rejet, de déposer une requête en révision. Pour cela, il me faudra des éléments nouveaux, faisant naître l'existence d'un doute quant à la culpabilité de M. Maradad. Et c'est pour ça que j'aurai à ce moment-là besoin d'une contre-enquête judiciaire.
Que dit l'accusation ? Quel est le scénario qui est écrit dans ce dossier ?
L'accusation a retenu le fait que Omar Haddad avait des besoins d'argent, qu'il avait l'habitude de solliciter ses employeurs lorsqu'il avait besoin de cet argent. Et par conséquent, ce dimanche-là, il travaillait dans une propriété à proximité de la Chamade. Il aurait eu dans l'idée d'aller solliciter de l'argent auprès de Madame Marshall. Celle-ci lui aurait refusé et Maradad en aurait pris ombrage. Il aurait donc tué Madame Marshall. Je vais lire d'abord les synthèses de ce dossier et très rapidement, je vais me rendre compte qu'effectivement, cette affaire ne semble pas tenir parce qu'il y a des éléments matériels d'office qui semble démontrer que c'est une accusation absurde. Lorsque je vais prendre connaissance de l'état physique dans lequel se trouvait Madame Marshall, manifestement, ça paraît être impossible que cette femme ait pu écrire avec son sang de telles inscriptions si complètes. C'est d'autant plus étonnant que c'était une femme de plus de 60 ans qui avait des gros problèmes de santé, qui aurait été frappée avec un lourd chevron à plusieurs reprises. Ça lui avait occasionné un œdème cérébral, le cuir chevelu éclaté, ça lui avait brisé un poignet, dans ses gestes de défense, ça lui avait coupé un doigt. Et elle avait été poignardée également à 11 reprises. Elle a eu le foie transfixé, c'est-à-dire transpercé de part en part à 2 reprises. Elle était également éventrée. Et pour finir, on l'avait égorgée. Eh bien, on prétend que cette femme, après le départ de son meurtrier, elle va se relever. Et elle va décider de dénoncer son meurtrier avec son sang. Mais elle ne va pas s'en contenter d'écrire Omar par terre, à côté, là où elle était censée être tombée. Non, elle va se relever. Elle va l'écrire en lettres géantes sur la porte. Et là, il faut beaucoup de sang. Elle va le prendre de manière improbable, peut-être dans ses blessures, dans ses plaies, sur son ventre, je ne sais où. Et elle va écrire ça, « Omar m'a tué », elle va pas omettre de mettre l'apostrophe, parce qu'elle n'est pas avare de son sang, manifestement. Elle se condamne à mort en le faisant. Pourtant, elle a de l'énergie, apparemment, elle pourrait essayer de sauver sa vie. L'instinct de survie, Madame Marshall, elle ne le connaît pas. Elle se condamne à mort car elle s'enferme de l'intérieur, elle bloque pour empêcher son meurtrier de revenir, mais également les secours de pouvoir la sauver. Et puis, une fois qu'elle a fait ça, ce qui paraît quand même improbable, eh bien, elle va éteindre la lumière. Pourquoi ? On le sait, parce qu'on va retrouver la scène dans le noir complet. Elle va traverser toute la cave jusqu'à la chaufferie elle-même, c'est une quarantaine de mètres, et là, dans le noir complet, elle va décider qu'est-ce que je pourrais bien faire en attendant de mourir, alors que j'ai déjà écrit de manière parfaite en lettres géantes « Omar m'a tué », elle va dire « je vais l'écrire une seconde fois », mais cette fois-ci, elle ne pourra pas finir, elle va mourir avant d'avoir terminé.
Alors, quand même, il faut dire un petit mot, c'est qu'elle fait une faute d'orthographe, quand même, pour une femme qui fait des mots croisés en permanence.
Madame Marshall nous est décrite par tous les gens qui la connaissent, et qui, sauf les gens de la partie civile, qui disent l'inverse, mais tous les gens qui la connaissent, ses amis de 30 ans et autres, que c'est une personne extrêmement instruite, très pointilleuse sur l'orthographe, et qu'elle ne commettait jamais de faute. Et surtout pas la faute en temps infinitif et le participe passé. Et c'est vrai que c'était elle faisait énormément de mots croisés et elle faisait des reproches d'ailleurs aux gens qui faisaient ce genre de faute.
Alors, Roger-Marc Moreau, on s'arrête une seconde sur ce point. Si je résume, le scénario retenu par la justice vous semble parfaitement invraisemblable à ce moment-là. Dites-nous pourquoi rien n'est étayé dans ce dossier ?
Il n'y a aucun élément. On ne retrouve pas d'empreinte digitale d'Omar Haddad, ni dans la chaufferie, ni dans la maison, alors qu'il est censé avoir, après avoir commis son crime, s'être rendu dans la maison pour ouvrir le sac à main et peut-être voler de l'argent. Par exemple, il a tondu toute la matinée la pelouse, on ne retrouve pas de résidus d'herbe dans la chaufferie. On ne retrouve aucun élément qui puisse accréditer le fait que M. Omar Radad se soit trouvé sur place. Il n'y a aucun élément matériel contre Omar Radad. Ce ne sont que des suppositions, c'est une construction intellectuelle qui a été faite en quelque sorte par les responsables de l'enquête. Ce qui me paraît étonnant d'emblée, c'est que normalement, Mme Marshall avait deux employés. Omar Radad qui venait travailler à mi-temps, deux ou trois jours par semaine à la Chamade, et puis une autre employée qui travaillait tous les jours de la semaine. C'était sa femme de ménage. Or, ce jour-là, on apprend par le procès-verbal lorsqu'elle va être entendue qu'elle n'était pas présente. Et ce n'était pas habituel. Elle va expliquer que la veille de son assassinat, de son meurtre tout au moins, Madame Marshall aurait reçu un appel téléphonique et qu'après avoir accroché, elle dit à sa femme de ménage « Je vous donne congé demain et après-demain ». Donc elle va préciser, d'ailleurs j'ai cru qu'elle partait en voyage parce que ça n'était jamais arrivé qu'elle me donne un congé. C'était un congé exceptionnel. Et là je vais quand même me poser la question, je vais dire mais si elle avait travaillé normalement, le meurtre n'aurait pas pu être commis. Omar Radad aurait été vu. Comme par hasard, elle était absente. Et ce qui va m'étonner également à l'examen du dossier, c'est que les gendarmes à l'époque, et le juge d'instruction, et même pendant l'audience, la cour d'assises, personne ne lui posera jamais la question, puisque vous n'étiez pas à la Chamade ce matin-là, alors que vous étiez censé travailler normalement, eh bien, où étiez-vous? Il n'y aura aucune enquête effectuée sur cette femme de ménage. Et puis la deuxième chose, c'est que Madame Marshall, contrairement à ce que avait dit cette femme de ménage, ne partait pas en voyage. En effet, on sait pertinemment quel était son emploi du temps. Le matin, elle va faire ses mots croisés comme d'habitude dans son lit. Elle va prendre son petit déjeuner, que d'habitude la femme de ménage lui préparait. Et puis l'après-midi, elle a été invitée à un anniversaire dans une propriété d'amis très riches. Elle avait d'ailleurs acheté un cadeau qu'on va retrouver dans sa chambre emballée. Il n'y avait pas de départ en voyage. Et par conséquent, je me pose bien la question, pourquoi a-t-elle donné congé à sa femme de ménage? Je suis parti à la recherche de cette femme de ménage. Je m'aperçois qu'elle a déménagé, que personne ne connaît son adresse. Et je vais découvrir qu'à l'époque des faits, lorsqu'elle habitait à l'adresse que je découvre dans le dossier, eh bien, elle habitait en concubinage avec un homme. Et je l'ai retrouvé, et par bonheur, quand j'interviens, moi, en 95, ils ne sont plus ensemble, il a refait sa vie, il a eu un enfant, et il est prêt à témoigner, et il va nous donner des informations qui vont relancer complètement l'affaire. Cet homme a vécu pendant une dizaine d'années avec cette femme de ménage. Il va dire, je suis étonné de ne jamais avoir fait l'objet d'aucune audition de la part des gendarmes, parce que j'avais des choses à dire. Chose importante. Et il va dire bien la première, c'est que lorsqu'elle revient le samedi de la Chamade, elle ne me dit pas que Madame Marshall lui a donné congé le dimanche et le lundi. La deuxième chose, c'est que le dimanche matin, elle va se lever à 7h30, heure habituelle à laquelle elle se levait lorsqu'elle allait travailler à la Chamade, et elle va se préparer et elle va partir en disant « je vais travailler à la Chamade ». L'après-midi, ils avaient rendez-vous à Port-Cantouze, parce que c'est un pêcheur, sur la jetée, et elle ne viendra pas. Elle fera une apparition à nouveau au domicile, et le soir, complètement éméchée, elle avait bu.
Et le lendemain, le lundi?
Le lendemain, c'est-à-dire le lundi, Madame Marshall est censée déjà être décédée. Eh bien, elle se lève à nouveau à 7h30, et elle part en disant « je vais à la Chamade ». Grâce à la médiatisation très importante qu'il va y avoir, c'est là qu'il va apprendre que le crime a été commis le dimanche. Donc il va lui poser, il va lui demander comment ça se fait que tu aies été à la Chamade et puis que tu ne m'as rien dit. Comment se fait-il que tu sois retourné encore le lundi alors que Madame Marshall était censée être déjà morte? Elle va dire, dans un premier temps, qu'elle était partie avec sa fille au bord du lac Saint-Cassien. Et puis il va lui dire, mais pourquoi tu ne me l'aurais pas dit si tu es partie avec ta fille? Et elle ne pourra jamais expliquer ces anomalies, et par conséquent, il ne va pas la croire. Il va donc la quitter en décembre, quelques mois après le meurtre de Madame Marshall, parce qu'il pense qu'elle est mêlée dans cette affaire de meurtre. Son compagnon de l'époque nous dit « mais c'est bizarre, puisque l'après-midi, elle partait. Je ne sais pas où elle allait. » Or, un jour, j'ai constaté qu'elle travaillait dans un bar. Je suis passé devant un bar, je l'ai vue derrière le comptoir. Ça m'a étonné. Et donc, je vais essayer de retrouver les gérants de l'époque. Et ces gérants, lorsque je vais les appeler, vont me dire « venez vite ». on a des choses, également des informations à vous donner. Et ils vont me raconter une histoire extraordinaire, c'est qu'effectivement, ils ont connu cette femme de ménage. Mais à l'époque, elle n'était pas avec son fameux concubin, elle était avec un autre homme. Et un homme qui était connu comme étant extrêmement violent. D'ailleurs, il était surnommé, il avait un sobriquet qui était Pierrot le Fou. Et cet homme était connu parce qu'il se vantait toujours d'avoir commis déjà un meurtre. Et la femme de ménage semblait être fière de ses antécédents judiciaires. Et elle disait tout le monde, « Mon Pierrot, il peut tuer à nouveau, il peut tuer même pour 4 sous. »
Mais pourquoi ne vont-ils pas à la police, tous ces gens-là, qui ont plein de choses à dire ?
Je ne suis pas certain qu'ils osent le faire. C'était des cafetiers, c'est pas des gens qui aiment ce genre de publicité.
Vous allez la retrouver, cette femme de ménage, ou pas du tout ? Vous ne l'approcherez jamais ?
C'est elle-même qui, à un moment donné, va appeler le cabinet de Maître Vergès. Elle va apprendre que je l'ai mise en cause dans la presse, que j'ai retrouvé donc son concubin. Et elle veut s'expliquer. Je lui ai dit avec grand plaisir, elle va me donner un rendez-vous. Un dimanche matin, je vais y aller avec mes collaborateurs. Elle avait, figurez-vous, un alibi. Cet alibi ne lui avait jamais été demandé ni par les gendarmes ni par la justice. Elle va préciser qu'elle était en congé, mais ça, elle l'avait dit aux gendarmes. Sauf que les gendarmes ne lui avaient pas demandé où elle était. Tandis qu'elle, elle va dire, voilà, j'ai un alibi. Et en fait, j'ai été voir ma fille. Et ensemble, nous sommes partis faire une partie de pêche entre 9h30 et 12h30 au lac Sainte-Croix. Alors, je rappelle que quand son compagnon, nous l'avions auditionné, lui nous avait dit qu'elle lui avait dit qu'elle allait au lac de Saint-Cassien. C'est pas au même endroit. Or, le temps nécessaire pour se rendre au lac de Sainte-Croix en partant du Canet, et le retour, plus la partie de pêche, eh bien, ça ne peut pas tenir dans le délai qu'elle indique. 9h30, 12h30. Et puis, ils vont également y avoir une discorde dans le moyen de locomotion, puisqu'elle affirme qu'ils sont tous partis dans la voiture de la fille et qu'elle a laissé son véhicule sur le parking privatif de l'immeuble de sa fille. Mais la fille et son compagnon vont nous dire « Non, nous sommes partis avec les deux voitures et nous nous sommes suivis. » C'est une anomalie que nous faisons remarquer.
À partir de là, effectivement, vous estimez que cette femme de ménage peut faire partie des suspects ?
Alors, cette femme de ménage peut faire partie des suspects. En effet, elle n'a pas d'alibi, puisqu'elle, manifestement, elle ne dit pas la vérité. Donc, tout cela va faire qu'effectivement, il y a des soupçons quant à cette personne, mais surtout également à son compagnon, et également à l'autre personne qui était son complice habituel lorsqu'il commettait des cambriolages. Car un autre témoin va apparaître, qui avait été mentionné dans la procédure, cette fois-ci, de la gendarmerie. C'était un témoin qui travaillait dans une propriété qui jouxtait la Chamade. C'était un ouvrier. Il faisait des travaux, et lorsque les gendarmes vont lui demander « Et toi, tu n'as rien vu ?» L'homme va dire « Si. Ce lundi, je travaillais et j'ai vu des choses. » Alors, ils vont l'emmener à la gendarmerie, et lorsqu'ils vont l'auditionner, cet homme va dire « Dans la matinée, un véhicule de type 4x4 est arrivé devant la chamade. Un homme était à son volant, il avait les cheveux mi-longs, une trentaine d'années, des lunettes de soleil. Ça correspond pile-poil au complice de Pierrot le Fou, comme description. Et cet homme va descendre du véhicule automobile, il va sonner au portail, et une femme de l'intérieur va demander qui est là. Alors que je rappelle, le lundi, Madame Marshall était censée être morte depuis la veille. Il était censé n'y avoir personne à la chamade. Que vont faire les gendarmes ? Eh bien, ils vont arrêter là l'audition. Ils ne vont pas lui demander plus de renseignements, mais ils vont lui demander en revanche, est-ce qu'il a le droit de travailler ? Or, l'homme travaille au noir pour un paysagiste de la région. Et par conséquent, ils vont lui dire, tu n'as pas le droit ? On te donne un mois pour quitter la France, sinon on te met en prison. Et l'homme va partir. Mais ça, on l'apprendra par la suite. Car au procès, lorsque Jacques Vergès voit ça dans le dossier, il exige la présence de cet homme au procès. Il veut le faire citer à comparaître. Or, le tribunal lui dit, on l'a cherché mais on ne l'a pas trouvé, on ne sait pas où il est. Et donc, Omar Haddad va être jugé sans le témoignage de cet homme. Jacques Vergès m'a demandé de le retrouver. Je vais le retrouver. Et je vais aller l'auditionner là où il était, c'est-à-dire en Tunisie. Cet homme résidait dans un petit village. Et lorsque j'ai décidé de me rendre sur place, à l'époque, il y avait une émission qui se préparait pour France 2. C'était La Marche du siècle, de Jean-Marie Cavada. Donc les journalistes m'ont dit, on vous accompagne, on va filmer cette audition en direct. Et puis, il y avait également VSD qui voulait venir. Et puis, Jacques Vergès va dire, moi aussi, je veux venir, car je veux voir comment vous procédez lorsque vous faites les auditions. On va donc tous partir en Tunisie. On va louer des voitures, on va se rendre dans ce petit village. Et on va retrouver cet homme. Cet homme va être attablé dans une maison. Il y avait le maire du village, il y avait le commissaire de police, il y avait plein de gens, il y avait bien sûr nos journalistes. Et je vais procéder à cette audition. Et donc il fait très attention cet homme. C'est un ancien militaire, donc quelqu'un de très précis et pointilleux. Et cet homme va dire non seulement le véhicule de type 4x4 va se garer, l'homme va sonner, je vais entendre une voix de femme de l'intérieur. Après moi je repars avec ma brouette et quand je reviens, le portail est ouvert et le 4x4 est rentré dans la propriété. Et là, je vais lui poser la question, mais cette femme, comment était-elle? Et il va me faire une description qui correspond trait pour trait à la femme de ménage. Et puis deuxièmement, il va me préciser que c'est la même femme qu'il avait déjà vue le vendredi précédent, qui se trouvait à la chamade. Or, il n'y avait personne d'autre en dehors de Madame Marshall que sa femme de ménage qui venait travailler à la chamade. Ce témoignage est particulièrement important parce qu'il démontre non seulement qu'il y avait des gens à la chamade le lundi alors que Madame Marshall est censée avoir été tuée le dimanche, mais en plus, ça confirme que cette femme de ménage qui avait dit à son concubin qu'elle se rendait à la chamade s'est bien rendue.
Alors, Roger Marc Moreau, ce que démontre finalement votre contre-enquête, c'est que il y a plusieurs acteurs qui, manifestement, ont été oubliés par la justice. À ce moment-là, est-ce que vous avez suffisamment d'éléments pour faire rouvrir le dossier?
Lorsque, avec Jacques Vergès, on va déposer cette requête en révision, devant la commission de révision, qui était chargée de faire un filtre. Est-ce que les éléments sont fondés, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'ils sont bien des éléments nouveaux? Eh bien, d'abord, elle va donner suite à la demande. Elle va nommer un conseiller rapporteur, c'est-à-dire en haut la magistrat de la Cour de cassation, qui va procéder à une nouvelle enquête. Et la première demande d'acte que l'on va décider, avec Jacques Vergès, c'est de demander une analyse de ce qu'il appelait, lui, la substance qui se trouvait sur les portes. En effet, l'enquête avait été tellement superficielle qu'il n'y avait pas eu, ne serait-ce qu'une analyse pour vérifier si c'était bien du sang. Et début 2000, on apprend que c'est bien le sang de Madame Marshall. Ça ne nous étonne pas vraiment. Mais en plus, on va découvrir mélangé au sang de Madame Marshall des ADN masculins inconnus. Immédiatement, la justice va nous dire « mais c'est l'un des deux ADN, et celui de Omar Haddad, c'est lui le meurtrier, c'est lui qui était condamné. » Et surprise générale, ce n'est pas l'ADN d'Omar Haddad.
Et c'est l'ADN de qui alors?
Alors, ce sont des ADN inconnus. On ne sait pas à qui ils appartiennent. Mais autant c'était important au départ, en disant c'est l'ADN d'Omar Haddad, ça sera la preuve de sa culpabilité, dit-nous la justice, autant à partir du moment où ce n'est pas l'ADN d'Omar Haddad, on va dire c'est pas important. On ne fera aucune recherche. On ne va pas non plus faire d'inscription au FNAG, au fichier national automatisé des empreintes génétiques. On ne veut pas savoir à qui ça appartient. Et alors, on va bien évidemment se battre pendant des années pour demander de nouvelles analyses. Car, bien évidemment, les techniques de l'ADN, on le sait, ont évolué considérablement. Il y a eu les techniques d'amplification de l'ADN. On sait maintenant que si on faisait une nouvelle analyse, on aurait l'ADN complet, le génome total. On n'obtiendra satisfaction qu'à la promulgation d'une loi en 2014. Et la première chose que l'on va faire lorsque cette loi va être promulguée, dès le 1er octobre 2014, le jour où on peut utiliser cette loi, une lettre recommandée avec AR va partir pour le procureur de la République de Nice, lui demandant de nouvelles analyses du sang, et notamment de ses ADN qui ont été découverts mélangés au sang de la victime. Quelques mois plus tard, on va apprendre que finalement, on a bien découvert à nouveau ses ADN, mais mieux, on a découvert cette fois-ci 4 ADN mélangés au sang de Madame Marshall. Et aucun d'eux ne correspond à Omar Haddad.
Et qui sont-ils, ces ADN?
Alors, 2 sont incomplets. Donc, on ne peut pas les inscrire au FNAEG. On va demander immédiatement, les 2 autres sont complets. Ceux-là, en revanche, on peut les inscrire. Alors, bien évidemment, ça va être une bagarre déjà avec le procureur, parce qu'à partir du moment où on a découvert ces ADN avec le génome complet, eh bien, la justice freine des cas de fer. Là, ça va durer 1 an et demi. Au bout d'un an et demi, on va nous dire, oui, on a fait l'inscription, et l'un d'entre eux a matché. Donc, cet homme est connu pour des faits de violence, et, ma foi, à partir de là, on va le faire arrêter dans les 8 jours. C'est ce que le procureur de la République déclare à un journaliste. Et mais 8 jours après, il n'y a toujours pas d'arrestation. 1 mois après non plus, 3 mois après, 1 an, plus d'un an, 1 an et demi encore. Et là, on va nous dire, eh bien, on a retrouvé l'homme en question, mais c'est pas lui qui était inscrit au FNAEG, finalement, ça ne correspond pas. Et donc, du coup, on arrête tout.
Comment expliquer les freins dans cette enquête ?
Déjà, c'est très difficile en France, vous le savez, d'obtenir une révision, puisque ça discrédite le système judiciaire, qui concerne d'abord un pays étranger, un ressortissant étranger, qui s'est devenu au Maroc une affaire d'État. Et par conséquent, si on reconnaît aujourd'hui que finalement la justice s'est mal conduite, n'a pas fait les vérifications nécessaires, n'a pas voulu réviser quand elle en avait la possibilité, eh bien ça va déjà faire un problème d'ordre diplomatique. Au-delà de ça, il y a également la partie civile qui était particulièrement virulente depuis le début, qui ne voulait absolument pas entendre parler d'un autre coupable comme Haddad.
Vous avez toujours espoir que le dossier soit rouvert, enfin que le mystère soit levé ?
Nous avons très bon espoir, car nous continuons, surtout avec Maître Novakovic, de nous battre. Je trouve qu'il y a des coïncidences dans cette affaire. J'aimerais bien qu'on approfondisse. Mais pour approfondir, il faudrait que la justice joue la transparence. Et fournissent les résultats de son enquête, si enquête il y a eu.
Alors tout ça est très bien, Roger-Marc Moreau. Grâce à votre enquête, certes, vous n'allez pas bouleverser le dossier, mais vous allez tout de même obtenir, avec Jacques Vergès, une grande victoire, la libération de Omar Haddad. Ce sera le 2 septembre 1998.
On va l'obtenir finalement que lorsqu'on va rendre public les résultats de la contre-enquête judiciaire. Les publications, l'ensemble des articles, des émissions de radio, de télévision qui vont avoir lieu, vont convaincre la population de l'innocence d'Omar Haddad. Par conséquent, à l'époque, la garde des Sceaux, pourtant qui s'opposait à sa libération, va être obligée d'accepter une libération conditionnelle, à contre-cœur. Elle fait 7 ans, 2 mois et 8 jours. Lui, il rajoute toujours 8 jours parce que chaque jour compte de détention.
Quelle est la première image que vous avez de Omar Haddad qui vous a frappé et qui vous poursuit encore aujourd'hui ?
La première que je vois, c'est le jour où il est libéré de la prison du centre pénitentiaire de Muret, à côté de Toulouse. Jacques Vergès m'a demandé de l'accompagner. Or, lorsque nous arrivons, il y a une foule de journalistes. Il se bouscule. Donc Jacques Vergès est autorisé à rentrer dans la cour de la prison. Il va revenir avec Omar Haddad. Et moi, je me tiens un petit peu en retrait. Et les journalistes l'étouffent presque. Et il m'aperçoit de loin. Je ne savais pas qu'il avait suivi, finalement, mes efforts d'enquête. Il écarte les journalistes. Il vient vers moi. Il tombe dans mes bras. Il m'embrasse. Et c'était une grande émotion pour moi. Omar Haddad, c'est un homme qui est déterminé, qui souffre énormément de ce qui lui est arrivé. Et aujourd'hui, il est détruit complètement, mais au départ, évidemment, quand on a obtenu sa mise en liberté avec Jacques Vergès, il respirait l'espoir. Et aujourd'hui, il s'est aperçu, finalement, qu'on ne voulait pas lui donner cette seconde chance. Il demande simplement une chose, il ne demande pas d'être innocenté, il demande d'être jugé une deuxième fois. C'est différent, c'est à la base des nouveaux éléments que l'on a réunis. Et on s'y oppose, on ne veut absolument pas lui donner cette chance.
Dernier mot, Omar Haddad, finalement, c'est l'histoire d'un mensonge ?
C'est l'histoire d'une justice qui a dysfonctionné, et puis d'un État qui est peut-être s'est compromis au départ, parce que peut-être qu'on a voulu, comme c'était des familles très connues, on a dit, il ne faut pas insister, il ne faut pas enquêter ci ou ça, c'est pas utile puisqu'on connaît le meurtrier, c'est marqué, Omar m'a tué, il faut circonscrire l'enquête autour d'eux. on se porte garant pour ces gens, parce que ce sont des gens très honorables. Mais est-ce que ça n'a pas pu aboutir, justement, à limiter les actes d'enquête et peut-être passer à côté de la vérité ?
Vous venez d'écouter un épisode des Voix du crime consacré à l'affaire Omar Radad avec le témoignage du criminaliste Roger Marc Moreau. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr. Et c'est Jacques Pradel qui vous accompagnera dans le prochain épisode des Voix du crime. Il y sera question de l'affaire André Berthaud, un homme devenu l'ennemi public numéro 1 après avoir enlevé et séquestré une fillette. Sa propre fille, Danielle Berthaud, complice malgré elle, sera la voix du crime qui vous racontera cet incroyable fait divers. À bientôt.